revenir à notre histoire de Moïse, ce serviteur de Dieu. Il a maintenant 80 ans. Le Seigneur était bon envers lui tout au long de ces années-là pour le protéger et le bénir aussi de maintes manières différentes. Et je pense que vous, comme moi, vous pouvez dire merci Seigneur aussi, parce que c'est pas seulement Moïse que tu as béni, tu m'as béni également. Et merci beaucoup pour cela. Vous savez, le temps d'attente pour Moïse, le temps de formation est maintenant révolu. Il est l'heure pour lui de se lever enfin et aller délivrer son peuple. Il va recevoir donc de la part de Dieu un appel à ce service-là. Il n'en a pas eu auparavant. Il voulait délivrer son peuple, il voyait leur misère, il s'identifiait avec eux. Mais, par contre, c'était pas le bon moment et c'était certainement pas le moyen pour lui de lancer cette délivrance en tuant une personne, notamment un Égyptien. Mais voilà, le temps est venu. Il a maintenant 80 ans et Dieu va se servir de lui. Il va l'appeler donc à son service et c'était le moment de délivrance. C'est le moment de salut pour Israël. Et vous savez, c'est peut-être aussi pour quelques-uns qui m'écoutent, jour de salut pour vous aussi. Vous savez, la Bible dit que voici le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et ça peut être le cas pour vous aujourd'hui si vous recevez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Vous l'avez peut-être aussi déjà fait et vous êtes avec moi, frères et sœurs, dans la foi. Et vous savez, c'est peut-être un jour de décision pour vous aussi, dans la mesure que c'est peut-être aujourd'hui que Dieu veut toucher votre cœur, comme il avait fait pour Moïse il y a si longtemps. Il veut toucher votre cœur pour vous demander d'entrer dans son service à plein temps. Quand il était plus jeune, Moïse, il avait la fugue, hein, il était prêt à partir, il était même prêt d'aller sans que Dieu lui demande de le faire. Mais maintenant que Dieu va lui demander, eh bien là, il a hésité. Et je le comprends. Vous savez, la première fois, ça ne s'est pas très bien passé. Et il est difficile de se relancer dans une entreprise où on a déjà connu l'échec. Hein. Et puis, il pensait qu'il n'avait plus les qualifications requises pour faire ce travail-là. Et puis, est-ce qu'on aime bien confronter ces vieux démons, en quelque sorte, ces mauvais souvenirs d'avoir été rejeté par son peuple? Ça, c'est pas facile. Et puis finalement, qui aurait eu envie de affronter la mort, encore une fois? Vous savez, quand il était tout bébé, il était un condamné à mort. Et après, à 40 ans, quand il voulait libérer son peuple, le voilà de nouveau sous la menace de la mort par Pharaon. Et il se peut qu'il se redemande à 80 ans, est-ce que je risque de nouveau d'être mis à mort en essayant de sauver la vie des autres sans vraiment la garantie que ça marche? Mais Dieu va lui donner cette garantie-là et il va chercher par tous les moyens de l'encourager. Vous savez que Dieu, il nous connaît intimement, mes amis, et il est patient aussi avec chacun de nous. Il veut encourager chacun de nous dans le service qu'il va nous demander de faire, comme il a encouragé aussi Moïse. Et j'aimerais voir avec vous cette rencontre avec l'Éternel qu'il a fait quand nous arrivons au chapitre 3 de l'Exode. Donc si vous avez votre Bible là devant vous, vous pouvez chercher Exode chapitre 3 et nous verrons ensemble les différentes étapes de cette rencontre, ces encouragements que Dieu a donnés à Moïse. Je lis les premiers versets donc, de ce chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Nous allons nous arrêter là juste un instant pour dire que ça c'est la première étape, c'est d'attirer son attention et d'objet en quelque sorte de faire cette face à face avec l'Éternel, et c'est ce qu'il fait. Et vous savez, ça c'était pas évident pour Moïse. Le plus important, ce qui a attiré son attention, c'était le buisson, bien entendu, mais c'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir ce contact avec l'Éternel, d'entendre sa voix, et c'est l'Éternel qui organise tout cela. Et il lui dit, je suis saint. Il va lui dire, ôte tes souliers parce que la terre sur laquelle tu es est sainte. Donc il est saint, il est vivant. Oui, c'est vrai que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il est toujours là, il est toujours vivant. Et il est glorieux, il est glorieux. Et il paraît dans un buisson, dans une flamme de feu. Le mot qui est employé, c'est le même mot qui allait être employé plus tard pour cette grande colonne de feu qui accompagnait Israël à travers le désert dans ses pérégrinations. Mais le buisson, c'est quand même important, et je pense qu'il y a un symbolisme là qui était important pour Moïse et pour la nation d'Israël. Que représente ce buisson-là? Ben, permettez-moi de vous poser tout simplement la question. Normalement, Dieu, il vit au milieu de qui? Et pas seulement ça, il manifeste sa grâce, normalement, envers qui? Envers son peuple, ceux qui le suivent. Et donc, dans ce cas-là, c'est Israël, le buisson représente Israël, et ce qui est important ici, c'est de remarquer que les Juifs, souvent, tout au long de leur histoire, avaient peur de faire face à Dieu, de le rencontrer, de le voir, de s'approcher de lui, de peur d'être tué devant ce Dieu saint. Mais là, qu'est-ce qu'on remarque? Dieu est représenté par ce feu et cette voix qui est au milieu du buisson ne consume pas le buisson. Le buisson est indemne. Le buisson est presque mis en valeur par cette flamme de feu qui était au milieu de lui. Mais ça c'était juste pour attirer son attention et pour lui dire, vous voyez, je suis le Dieu vivant et je vis par moi-même. Je n'ai pas besoin de consumer ce buisson pour vivre. Ce buisson n'est pas du combustible pour moi. Je vis. Le buisson sert en quelque sorte de support pour manifester ma gloire. Et Israël allait être le peuple par qui la nation de l'Égypte, mais puis toutes les nations qui étaient dans la terre promise, apprenaient qu'il était le vrai Dieu. La deuxième étape dans cette rencontre avec Dieu, c'est dans les versets qui suivent, je vais lire à partir de verset 4, où il dit « L'Éternel vit qu'il, Moïse, se détournait pour voir. Et Dieu appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici. » Je ne vais pas lire tous les versets suivants, mais juste pour indiquer que, juste peut-être retirer quelques versets, quelques expressions. Il va dire « J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. » les cris d'Israël sont venus jusqu'à Moïse. Et il va terminer en disant, j'ai vu l'oppression que me font souffrir les Égyptiens et je t'enverrai Moïse. Alors, c'est formidable ici. Vous savez, Israël n'avait pas vu Dieu, n'avait pas eu de vision de Dieu, n'avait pas entendu sa voix depuis des siècles. Mais Dieu a vu son peuple. Dieu écoutait les cris de son peuple. Il le voyait, et mieux, le jour de délivrance était là. Ne laissez pas vos impressions et émotions dicter, mes amis, votre image de Dieu. Nous pouvons tous penser à un moment ou à un autre, surtout quand nous sommes dans la détresse comme Israël a été, que Dieu n'est plus là. Il est absent, il n'écoute pas mes prières. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Alors, fiez-vous aux révélations que Dieu fait de lui-même, comme il fait ici à Moïse. Mais aujourd'hui, il n'utilise plus de vision comme ça. Il nous donne sa parole. Et en regardant dans sa parole, eh bien, nous pouvons savoir que, quoi qu'il arrive autour de nous, Dieu est amour. Quelqu'un m'a dit une fois quelque chose que j'ai trouvé très, pas seulement intéressant, mais aussi très instructif. Il m'a dit, Richard, ne doutez jamais dans le noir ce qui était évident en plein jour. C'est vrai que nous traversons quelquefois des difficultés, nous sommes dans le noir, mais laissons-nous habiter par la vision de Dieu qui est éclairée par sa parole. Troisième élément de cette rencontre, c'est que Dieu va assurer Moïse de sa présence. Dans les versets 11 et 12 que je lis, Moïse dit à Dieu, « Que suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et Dieu dit, « Je serai avec toi. » Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et voilà, la preuve qu'il était envoyé par Dieu et que Dieu l'accompagnait, c'est le fait que Dieu allait permettre à Moïse et tous ses frères et sœurs juifs de sortir d'Égypte et de retourner sur cette montagne pour l'adorer. Or, je serai avec toi. Vous savez que la réussite d'une mission qui est faite pour Dieu est assurée non pas par nous-mêmes, par notre sagesse, par nos capacités, par nos qualifications quelconques. C'est assuré par la présence active de celui qui nous appelle à son service. Maintenant, le quatrième élément de cette rencontre avec Moïse se trouve dans les versets 13 à 15, où Dieu va révéler à Moïse son propre nom personnel. Je lis à partir du verset 13 du chapitre 3. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je le dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'envoie vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, excusez-moi, et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Et voilà, il donne son nom. Et il permet à Moïse de se présenter devant son peuple au nom de l'Éternel. De se présenter même devant Pharaon au nom de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous savez, maintenant, c'est un homme vieux. C'est un homme qui a vécu autant de temps en dehors d'Égypte qu'avant. Et c'est qu'il n'est plus connu. Il n'a aucun statut maintenant en Égypte pour se présenter comme le libérateur, pour faire des demandes à Pharaon. Alors, Dieu lui permet d'aller en son nom. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et quel est ce nom? Le nom est Yahvé en hébreu, un nom qui est traduit, comme nous avons ici dans le texte, au verset 15, par l'Éternel. C'est construit sur le verbe être, et je trouve que c'est très bien traduit comme cela. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer que c'est ce Dieu-là qui s'appelle l'Éternel, qui était justement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme si Dieu disait à Moïse et à travers lui, à toute la nation, « Voilà, c'est moi qui ai appelé Abraham, c'est moi qui l'a conduit, c'est moi qui l'ai protégé, c'est moi qui lui ai fait des promesses d'une descendance, mais aussi d'une terre. Mais je suis aussi le Dieu d'Isaac. Isaac, que j'ai rendu fécond. Lui et son épouse ne pouvaient avoir des enfants. Et puis après, quand il était souvent en dispute avec ses voisins, Dieu l'a protégé. Et Dieu l'a rendu prospère. Et puis finalement, il dit aussi, je suis le Dieu de Jacob. Alors Jacob, oui, c'est celui que Dieu a accompagné quand il a dû quitter son pays. Et Dieu l'a rendu aussi fécond, lui a donné une très grande famille quand il était encore à l'étranger. Et puis Dieu l'a accompagné pour le voyage de retour. Vous vous souvenez quand la banque est venue contester avec lui et voulait reprendre ses épouses et ses enfants, eh bien Dieu est intervenu en faveur de cet homme-là. Et je trouve ici que Dieu est en train de dire à Moïse et au peuple d'Israël, je vois Abraham, Isaac et Jacob en vous. Vous êtes le peuple que j'ai appelé. Vous êtes le peuple que j'ai conduit jusqu'ici. Vous êtes le peuple à qui j'ai donné des promesses. Vous êtes le peuple que j'ai rendu fécond et prospère dans un pays étranger. Et c'est moi aussi qui vais vous conduire vers cette terre que j'ai promis. Alors, c'est quelque chose qui devait être vraiment un grand encouragement pour Moïse que de savoir qu'il pouvait se présenter devant le peuple, mais aussi devant Pharaon au nom de ce Dieu-là. Cinquième élément dans cette rencontre avec l'Éternel se trouve dans les versets 16 et 17 de chapitre 3 qui disent « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. » Et voilà que maintenant, dans cette étape, Dieu donne à Moïse, son serviteur, des instructions précises. Il lui met carrément dans la bouche ce qu'il doit dire aux anciens de son peuple. Et je trouve que c'est formidable. Vous savez que avant, quand Moïse voulait délivrer son peuple, il devait improviser. Il n'avait pas eu jusque-là un vrai appel de Dieu. Il n'avait pas reçu des instructions. Et il avait sans doute de bonnes intentions, mais il était complètement à côté de la plaque. Mais là, quand Dieu veut délivrer son peuple, il le fera avec justice et droiture, intégrité. Et voilà, donc, il donne des instructions précises à son serviteur pour qu'il sache exactement ce qu'il est à faire. Ça me rappelle un verset que je trouve dans Ésaïe chapitre 51, verset 16, quelque chose que l'Éternel a dit à Ésaïe en son temps. Il a dit ceci, « Je mets mes paroles dans ta bouche. » Vous voyez, combien c'est réconfortant. Vous voyez, Moïse, il hésite, il craint ce que l'avenir peut réserver pour lui. Mais Dieu va jusqu'à mettre les paroles qu'il doit prononcer dans sa bouche pour Israël et pour Pharaon. Donc ça a dû le rassurer. Il sait exactement ce qu'il a à faire. Il n'a pas inventé par lui-même. Il n'a pas à craindre non plus de faire des choses inconsidérées, sauf de trouver mieux. Sixièmement, dans cette rencontre, Dieu le rassure en disant, « Ils écouteront ta voix. » Versets 18 à 22. Oui, il va dire dans ce passage également que Pharaon, il ne va pas écouter, mais les Juifs vont écouter cette fois-ci. Vous vous souvenez, la première fois, un des Juifs lui a dit, « Mais qui t'a fait toi, Moïse, chef et juge sur nous? Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et sans doute, Moïse avait raison de craindre en quelque sorte que ça tourne au vinaigre cette fois-ci aussi, qu'il soit rejeté même par son propre peuple. Mais Dieu le rassure. Cette fois-ci, ils t'écouteront. C'est une promesse de Dieu. Pharaon ne va pas le faire, il dit. Et Pharaon n'a jamais écouté. Il a cherché par moments de négocier avec Moïse, mais il n'a jamais écouté ce que Moïse a à dire. Mais Dieu dit, je vais en quelque sorte, hein, je vais lui forcer la main. Et là, il vous laissera partir. Et pas seulement vous allez pouvoir partir, mais vous allez partir avec de grandes richesses. Quelle assurance, quel encouragement de la part de Dieu. Oui, dans le service pour Dieu, il y a souvent des obstacles, n'est-ce pas? Tout n'est pas rose ici-bas, tout n'est pas forcément une route sans nid de poule, ni montée, ni descente, tout. Non, il y a des obstacles. Ça me rappelle ce que Paul, il a dit, en parlant aux Corinthiens, il dit « Une porte grande et un accès efficace, mais ouverte. » Et les adversaires sont nombreux. Mais Dieu a ouvert la porte, et lui, il a franchi. Et il a travaillé, il a eu un excellent travail pour l'Éternel, malgré l'opposition. Pourquoi? Parce que rien ne dépendait finalement uniquement de Paul. Ça dépendait toujours de celui qui l'envoyait. Et c'est Dieu qui s'occupe des obstacles. Septième élément dans cette rencontre entre Moïse et l'Éternel, c'est maintenant au chapitre 4, les 9 premiers versets. Je ne vais pas les lire non plus parce que c'est sans doute la partie de cette histoire qui est le mieux connue. C'est le moment où Dieu va donner 3 signes à Moïse pour l'encourager dans le fait qu'il est effectivement un envoyé de Dieu. Il ne vient pas simplement de son propre chef. Alors il lui permettra de faire des choses que ce Dieu pouvait faire. Et il y a 3 signes. Le premier signe, c'est le bâton qu'il tient dans la main, bâton de berger, très semblablement. Il y jette le par terre, il le fait, et ça devient un serpent. Et puis Dieu lui dit, tends ta main, prends le serpent par la queue, et c'est redevenu son bâton. Deuxième signe, il devait mettre dans son vêtement sa main. Et quand il a retiré la main, peut-être la même qui tenait le bâton à l'instant, eh bien la main est devenue lépreux. Et puis Dieu lui dit, maintenant remets la main, et il a ressorti, et elle est redevenue saine. Troisième signe que Dieu a donné, troisième miracle, est le fait que l'eau du Nil allait se changer ensemble par l'action de Moïse. Et ces choses vont vraiment se passer comme cela. Mais je pense que c'est plus qu'un miracle ici. Ce sont des actes miraculeux qui portent un message. On peut parler de signes, de symbolisme ici. C'est quelque chose de pédagogique. Et qu'est-ce que ces signes nous enseignent? Qu'est-ce qu'ils enseignaient à Israël à l'époque? Alors les deux premiers, je pense que vous l'avez reconnu, se ressemblent beaucoup. Hein? Vous avez deux choses, une main, un bâton, qui sont des choses très utiles, mais qui deviennent des choses effrayantes. Mais puis après, quand Moïse va obéir à l'ordre de Dieu, eh bien, on retrouve l'utilité du bâton et de la main qui redeviennent saines. Alors je pense que nous avons ici quelque chose d'intéressant dans ce que je pense que la main et le bâton représentent Israël. Me semble-t-il, il y en a qui pensent que peut-être il y a une représentation de Moïse, mais Moïse, c'est lui qui va agir et ces choses vont être changées. Et je pense que nous avons un exemple ici d'Israël qui était créé par Dieu, qui était la main de Dieu. C'était la nation par laquelle il agissait dans le monde jusque-là, avec toute son utilité. Mais à un moment donné, eh bien, cette nation était un objet de crainte pour Pharaon, qui commençait à avoir peur des Juifs. Et puis, après, par l'action de Moïse, sous les ordres de Dieu, quand Dieu lui dit « Reprends le serpent, remets ta main », eh bien, tout retrouve son utilité et sa santé aussi. Donc, les deux ont le même type de message. Israël a eu un bon moment dans le passé, a passé par un moment très très difficile, mais Dieu allait faire sortir Israël de cette période où elle faisait crainte. Elle allait retrouver son utilité et sa gloire même. Et on peut se demander, mais si les deux signes-là, ces deux miracles, signifient la même chose, pourquoi Dieu en donne deux? Ça m'a fait penser à l'histoire de Joseph. Je ne sais pas si vous vous souvenez du moment où Joseph, des siècles avant, hein, il avait interprété le rêve de Pharaon, un autre Pharaon, beaucoup plus tôt. Et il avait eu une vision de 7 années d'abondance suivie de 7 années de famine. Et deux visions, l'un c'était des épis qui poussaient et qui étaient bien pleines, mais qui étaient mangées par des épis qui étaient tout chétifs, etc. Et puis l'autre vision, des vaches qui sortaient du Nil, et il y en avait qui étaient des vaches grasses et belles, et alors sorties après des vaches maigres qui ont mangé de nouveau ces autres vaches. Et Joseph, il a dit, puisque Dieu a donné deux visions, ça signifie deux choses. Ça signifie, premièrement, que ces choses vont vraiment se réaliser. Il y aura effectivement 7 années d'abondance, 7 années de famine. Ça va vraiment se passer comme ça. C'est arrêté dans le plan de Dieu. Et puis la deuxième chose que ça signifie, c'est que ça va se passer tout de suite. Dieu ne va pas attendre. C'est pour maintenant. Et je pense que c'est ce que Dieu voulait dire en donnant deux visions pour convaincre le peuple d'Israël, le moment de retrouver toute ta place dans le plan glorieux de Dieu pour toi, c'est maintenant. Je vais arrêter. Alors préparez-vous. Et puis il y avait une troisième vision, le Nil, qui se change en sang, de nouveau sous l'action de Moïse. Alors le Nil était porteur de vie pour la nation d'Égypte. D'ailleurs, si le Nil n'était pas là, il n'y avait que désert. C'est le Nil qui rendait la ville possible tout au long de ses berges. Mais là, quand Moïse intervient, eh bien le Nil change en sang. Et je pense qu'il y a aussi, ici également, mais peut-être plus pour le Pharaon que pour Israël, un message d'avertissement. Si vous persistez dans cette confrontation avec Moïse, restez sur votre position d'obstination et de ne pas laisser partir mon peuple, eh bien là, ce sera la mort. Et nous savons que la dernière plaie hein, en Égypte, c'était la mort de tous les enfants mâles premiers-nés dans le pays, même le garçon aîné du Pharaon. Finalement, nous arrivons aux dernières étapes de cette rencontre entre Moïse et Dieu qui cherche à l'encourager à partir. Mais là, ça a failli tourner mal, parce que Moïse ne veut toujours pas y aller. Et il lui dit dans le chapitre 4, à partir de verset 10, je trouve ça dans ma Bible, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Vous voyez, il se sent plus vraiment apte pour cette mission. « Je n'ai pas la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Je ne sais pas s'il bégayait, s'il cherchait trop ses mots. Mais en tout cas, l'Éternel lui répond, au verset 11, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudrais. » Qui tu voudras envoyer, mais pas moi. » Alors là, la parole dit dans la suite que Dieu s'est mis en colère contre lui. Et pourtant, il ne va pas juger Moïse, il va continuer à prendre en considération ses hésitations, ses doutes et ses objections-là. Il veut vraiment utiliser Moïse pour délivrer son peuple. Alors il est patient. Avec lui, il est miséricordieux. Et mes amis, encore là, je me retrouve dans Moïse, peut-être vous aussi, hein. Est-ce qu'on a toujours été prompt à suivre les voies de l'Éternel? Est-ce qu'il n'y a pas eu des fois où il aurait dû, peut-être, en tout cas il aurait pu, nous châtier à cause de nos hésitations, nos obstinations? Oui. Mais il est bon en même, n'est-ce pas? Il est compatissant, il est lent à la colère, et c'est ce qu'il fait ici pour son serviteur. Maintenant, Moïse est enfin rassuré, il accepte d'y aller, et il va rencontrer Aaron et continuer son chemin, et l'exode aura lieu, comme vous le savez très bien. Mais permettez-moi maintenant de vous poser une question. Est-ce que vous sentez que je vous appelle à son service? Est-ce que ça vous fait peur? Ça devrait, hein? Ça devrait en quelque sorte parce que, comme on a dit, oui, il y a une grande porte qui est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Moïse a connu beaucoup d'obstacles, mais il laissait Dieu s'occuper des obstacles. J'aimerais vous montrer un verset qui me rappelle beaucoup cette expérience que Moïse a eue sur la montagne avec l'Éternel. C'est dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Ce sont les versets que nous connaissons très bien. Je vais les lire pour vous. C'est après la résurrection de Jésus-Christ et il avait pris rendez-vous avec ses disciples sur une montagne. Et effectivement, ils arrivent tous. Et il y a cette rencontre entre les disciples que Dieu va envoyer maintenant dans le monde et le Seigneur ressuscité. Et la Bible dit, Jésus s'étant approché. J'ai perdu ma place. Jésus s'étant approché, voilà, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pense que les parallèles entre les deux expériences, Moïse sur la montagne devant le buisson ardent et les disciples avec Jésus-Christ, pensez au fait que Jésus se montre vivant comme l'Éternel. S'est montré vivant devant Moïse. Ils étaient tous les deux sur une montagne, à l'écart, où ils pouvaient avoir cette face à face, très intimement, l'un avec l'autre. C'est encore lui qui a initié la rencontre. Le passage nous dit que Jésus s'étant approché, c'est lui aussi qui avait donné rendez-vous à ses disciples. Comme pour Moïse, Moïse ne l'attendait pas. Mais Dieu l'attendait, lui, et il a attiré son attention pour cette rencontre. Et puis, le texte nous dit que, s'étant approché, Jésus leur parla ainsi. C'est Jésus qui parle, en premier lieu, à ses disciples. Et puis, il va leur donner des instructions précises. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, leur enseignant, il leur donne exactement ce qu'ils ont à faire, comme avec Moïse. Et Dieu ne nous abandonne pas à notre propre sagesse humaine pour accomplir son œuvre, à notre propre inventivité. Il y en a qui sont plus forts que d'autres dans ce domaine-là. Moi, je ne suis pas très fort du tout. Mais il nous donne exactement le mode d'emploi, en quelque sorte, pour accomplir sa mission. Et puis il dit également, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et encore, c'est pour dire, vous pouvez aller en mon nom, avec mon autorité. C'est moi qui vous envoie, comme il l'avait fait avec Moïse. Et puis finalement, Jésus assure ses disciples de sa présence avec eux tout au long de l'entreprise. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ou de l'âge. Jusqu'à la fin de votre mission, je vais vous accompagner dans la tâche qui sera la vôtre. Et donc, comme pour Moïse, comme j'ai dit tout à l'heure, la réussite de notre mission, si nous répondons à l'appel de Dieu, ne dépend pas de nos capacités, ne dépend pas de notre fidélité, ne dépend pas de nous, eh bien, ça dépend de la présence active de celui qui nous appelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a fait la promesse, je serai avec vous. Alors, si vous avez le sentiment que Dieu, aujourd'hui, ou peut-être depuis un moment, est en train de vous taper sur l'épaule pour dire, je veux que toi, je veux que tu travaille pour moi, eh bien, je vous encourage. Faites comme Esaïe aussi, que lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, il lui a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Que Dieu vous bénisse.